Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Alors, la clinique de mes chers docteurs est étrangement calme, ce qui ne présage rien de bon. Ils arrivent la mine renfrognée, mais la tête haute. Ils m'affirment qu'il y a jour d'élection au comité d'entreprise de la clinique. Ce qui me semble être aussi difficilement croyable que la participation du peuple à la gouvernance de la cité. Bon, admettons qu'il soit devenu démocrate. Mais pour l'élection en cours, ils veulent parler uniquement du vote blanc, comme leur tenue. Blanc, neutre donc. Mais pas du tout, m'explique-t-il. Le blanc n'est pas forcément la couleur de la royauté, ni celle du drapeau réclamant la neutralité sur les champs de bataille. Blanc, c'est au contraire s'engager, se démarquer, se singulariser. Bon, je veux bien écouter leurs arguments. Le vote blanc, c'est l'avenir de la démocratie, peut-être. Peut-être que de ne pas choisir pour exprimer sa différence positive, c'est vraiment l'avenir du vote. Allez savoir. Ils vont nous le dire. Mabuse, House et Jekyll affûtent leur scalpel pour une intervention difficile. Nous expliquer. Nous convaincre que le vote blanc sert peut-être à quelque chose. Ou alors le contraire, qu'il est dérisoire, futile, et qu'il n'est que la représentation zéro de la démocratie. Voter pour rien, pour personne, n'est-ce pas surtout une affirmation de son ego et voter pour soi ? Une façon de se prouver qu'on existe. Bon, nous allons disserter de tout cela et peut-être de son contraire avec mes docteurs en estou. Sociologie, philosophie, histoire et sciences politiques sont toujours à leur programme. Alors nous voulons bien écouter pour essayer de savoir. Le vote blanc, cela sert à quelque chose. Le vote blanc, c'est affirmer sa différence en refusant de se reconnaître dans un panel insuffisant. Le vote blanc, c'est la révolution en marche des électeurs floués par tant d'années d'indifférence en leur non-choix. Voilà. En tout cas, un sujet qui mérite largement l'avis de nos docteurs. On y va ! Allez, on y va ! Mabuse, House, Jekyll ont sûrement des idées à nous faire partager sur la question. Mabuse !
Ah, le vote blanc. Un vote où l'on exprimerait une opinion pour dire que l'on n'en a pas, dans un pays où le vote n'est pas obligatoire et où, pour l'instant, on ne fait pas la distinction entre le vote blanc et le vote nul. Le vote blanc serait donc l'expression d'un refus avec une volonté de reconnaître que la participation est le symbole d'un acte démocratique par délégation de pouvoir du citoyen. Comptabiliser les votes blancs inciterait les citoyens à légitimer le vote et donc la démocratie plutôt que les laisser se réfugier de plus en plus dans l'abstention. Alors, un leurre, une forte abstention signifierait que les citoyens n'y croient plus. Et donc ne se reconnaissent plus dans l'expression politique des candidats, alors que les amener à un vote blanc déplace le sujet sur la reconnaissance du système. Un emplâtre sur une jambe de bois, en quelque sorte. Comme dit Pascal, qui veut trop faire l'ange, fait la bête. Pour que la reconnaissance du vote blanc soit intéressante, il faudrait rendre l'inscription et le vote obligatoire, comme en Belgique. Cependant, le problème n'est pas le vote blanc, ou même l'abstention, mais la représentativité des élus. Le président des États-Unis, par exemple, élu avec 28% des inscrits et 15% de tous ceux qui pourraient ou sont des électeurs, est-il représentatif de la première puissance mondiale ? Rappelez-vous du vote au second tour, de l'élection de Georges Pompidou sur Alain Poher, et où on disait qu'il représentait en fait 25% des inscrits. En fait, le débat est bien la distance qui sépare la légalité de la légitimité. La démocratie est en danger si les citoyens ne veulent plus y participer. Sa mollesse apparaît comme un laxisme et les citoyens en période de crise soit abandonnent, soit revendiquent ou réclament une politique autoritaire qui risque de se transformer en autoritarisme. Finalement, ne pas sauver la démocratie c'est s'exposer au risque d'un système sans élection, comme le démontre bien Emmanuel Todd dans son livre « Par-delà la démocratie ». Comptabiliser le vote blanc, c'est casser le thermomètre pour ne plus avoir de fièvre. Alors citoyens, comme le disait le marquis de Sade, encore un effort pour être républicain, mais réfléchissez, notre démocratie est-elle vraiment la panacée ou le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, dixit Winston Churchill. Si le vote est un mode d'intégration sociale, alors rendons-le obligatoire et disons, dans une paraphrase digne de 68, vote blanc, piège à camp.
Ah, ben voilà, voilà, une première version de ce vote blanc et du poère Pompidou, c'était blanc bonnet, bonnet blanc aussi, hein, si je me souviens bien. On va passer maintenant
à... Maintenant, les bonnets, ils sont rouges.
Oui, voilà, bonnet rouge, bleu, rouge bonnet. Bon, et ben maintenant, nous allons passer à notre deuxième docteur, notre docteur House, qui a peut-être d'autres, d'autres idées sur ce vote blanc. Oui,
je me permets une formule, c'est pas rouge bonnet, c'est rouge bonnet.
Bonnet, bonnet, oui.
Bonnet.
Oui, oui. Bon, alors, nous passons maintenant la parole au docteur House pour une petite autopsie de ce vote blanc.
Ben, moi, je voudrais dire qu'avant, tout était simple. Il y avait les réac et les progressistes, il y avait les injustes et les justes, les exploiteurs et les exploités, les patrons et les salariés. Enfin, il y avait la droite et la gauche. La droite rigoureuse et la gauche généreuse. Chacun pouvait choisir. Et puis... on a fait croire à l'électeur que la gauche elle n'avait pas le monopole du cœur, et l'électeur a découvert que la droite n'avait pas le monopole de la rigueur. Et puis, on a fait croire à l'électeur que la lutte des classes était une notion du passé, et l'électeur a découvert la fatalité. La fatalité de la construction européenne, la fatalité de la mondialisation, de facture sociale et changement maintenant, avec les fatalités, l'électeur a découvert le désespoir. Ce désespoir qui détourne le citoyen des urnes et sur lequel le FN tire les marrons du feu. Au secours, la démocratie. Alors, l'Assemblée nationale a voté. Les votes blancs ne seront plus mélangés avec les nuls. Le vote blanc peut-il ramener le citoyen dans l'isoloir? Point d'interrogation. Les votes blancs ne seront pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Alors, la politique, putain, c'est avant tout choisir.
Voilà, choisir. Donc, on ne nous laisse pas beaucoup de choix. Alors, il reste le dernier de nos docteurs, le docteur Jekyll, qui va peut-être replacer ça dans un certain contexte, ce vote blanc, depuis quand il existe, pourquoi, est-ce que ça a un sens? Enfin, nous allons l'écouter.
Décidément, de toute façon, rien ne va plus en cette démocratie française. Et c'est pas nouveau pour le moins. L'affaire est identifiée depuis le gouvernement Jospino-Chiracien entre 1997 et 2002. Il y a comme une désaffection de l'électorat pour les scrutins, quels qu'ils soient. Une petite cohorte d'universitaires s'est attelée à la besogne. Il fallait quantifier et qualifier. Et là, surprise, un décalage provoquant fut mis à jour entre les Français qui avaient plus de 18 ans et ceux qui étaient inscrits sur les listes électorales. Et de combien ce décalage ? De près de 8 millions d'individus, ce qui en fit, les non-inscrits, le plus grand parti de France. Mais comme si cela ne suffisait pas, ils constatèrent que depuis 1989, le vote dit inutile progressait d'une élection à l'autre, ce qui signifiait que les citoyens actifs, ceux qui votaient, rejetaient les représentants des PDG, les partis de gouvernement. Et de 90% de votes utiles, on passa progressivement à moins de 60%. Mais comme si ça ne suffisait pas, ils aperçurent que l'abstention, elle aussi, faisait des ravages électoraux, au point d'atteindre des sommets vertigineux, parfois plus de 70% lors de certains référendums. Alors le couple Chiraco-Jospinien décida d'inscrire d'autorité les jeunes de 18 ans lorsqu'ils effectuaient leur journée militaire appelée JOPD. Résultat, un envol de l'abstention, évidemment. Pourquoi tout cela? Simplement parce que l'offre politique ne correspond plus à la demande des citoyens. Parce que les représentants des partis se sont fourvoyés dans les arcanes du pouvoir. Parce qu'ils pratiquent dans le fond la même politique, même si la forme varie. Alors, la socialie hollandaise vient d'inventer la reconnaissance du bulletin blanc. À ne pas confondre, à le savoir pourquoi, avec le bulletin nul. Mais ils se gardent bien d'imposer un quota. Alors, le jour où l'État décrétera que faute d'un quorum de 50% des Français de plus de 18 ans, les élections seront invalidées, les choses changeront. Et là, il y a du boulot pour ces messieurs républicano-démocrates. Toujours est-il que dans ce cas-là, le vote contestataire ou protestataire, comme bon vous semble, n'aura plus aucune utilité, et la France sera dès lors débarrassée de tous ses fronts. Mais dans l'attente, voter blanc, c'est nul.
Voilà, docteur Jekyll, voter blanc, c'est nul. Alors on va prendre maintenant le pouls de tout le monde et voir s'il y a débat. Alors il y a débat forcément quand même sur ce vote blanc. Et c'est vrai que la loi là semble un peu ambiguë parce qu'à la fois il faut tenir compte, si j'ai bien compris, hein, docteur House, il faut tenir compte donc du blanc, mais c'est pas, ça n'influence pas sur les pourcentages des oui. votants. Quoi. Au bout du compte, on dira toujours il y a 60% pour Madame Machin, 32% pour Monsieur Truc, etc. Et les Blancs
Les Blancs, ils restent nuls.
Alors c'est ça qu'on... Donc on essaye de faire une loi, mais qui n'avance pas.
M'abuse. Hein. Expliqué, Jekyll. Moi, je pense que c'est vraiment un emplâtre sur une jambe de bois, comme je le disais. Parce que effectivement, si ça ne doit pas modifier l'expression retenue pour avoir des élus, je ne vois pas en quoi on a fait cette loi et ce qu'elle amène de plus. Si ce n'est peut-être faire passer un certain nombre d'abstentionnistes dans le camp des électeurs, dans le blanc, qui voterait blanc, hein, donc qui n'exprimait pas d'opinion, en fait. Et moi, je suis d'accord avec ce que disait Jekyll, c'est-à-dire que la politique, c'est un choix, c'est pas un rejet. On peut rejeter, à mon avis, dans la diversité des partis qui s'expriment. Alors, on peut le faire de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais je pense que cette loi n'est faite que pour sauver le semblant démocratique du mode de représentation.
On va dire sauver les apparences.
Sauver les apparences.
On sauve les apparences. Et puis, quand même, dans les panels qu'on nous propose au premier tour de nos élections, il me semble qu'il y a quand même énormément de possibilités de choisir.
C'est un leurre.
C'est ce que je voulais... J'avais bien compris, Jekyll. Mais je voulais que vous alliez plus loin dans cette pensée. Parce qu'on nous dit, on a vraiment
c'est
choix.
C'est un leurre. Quand il y a un représentant d'un parti qui pèse de 3, 4, 5%, voire même 10%, c'est ce que certains, les politologues, appellent le vote inutile. D'ailleurs, vous l'avez très bien compris en 1980, c'était Huguette Bouchardot, dont le slogan était « Votez pour moi, votez inutile ». Ça savait très bien qu'il ferait 1, 2, 3%, etc. En fait, je crois que c'est plutôt la politique du mistigri qui est faite par l'État. Pas aujourd'hui par Hollande, mais hier par Chirac, Jospin, etc. Politique du mistigri, c'est-à-dire politique du bouc émissaire. C'est pas de leur faute. Non, c'est de la faute des abstentionnistes, c'est de la faute des non-inscrits. Et donc, on va faire pour qu'ils se mettent à voter. Or, le seul problème qu'il y a, c'est que personne ne veut plus d'eux. Enfin, personne. Une immense majorité. Quand on ajoute les non-inscrits, les abstentionnistes,
les
votes blancs et nuls, et ceux qui votent inutiles, c'est-à-dire qui délibérément refusent aucun des ce que Olivier Duhamel appelle les PDG partis de gouvernement, les PDG partis de gouvernement, c'est-à-dire aujourd'hui en gros l'UMPS au sens large du terme, comme le dit Marine Le Pen,
il faut le rajouter le Front National maintenant.
Il passe de quoi?
Peut-être
qui n'est pas encore, justement. Ça restera à voir. Est-ce qu'un jour, en scrutin majoritaire, le Front National atteindra le seuil fatidique des 50%.
Des 50%,
donc ça, c'est pas encore pour demain, ça, cette affaire-là.
Et 50%, comme vous dites, Jekyll, 50% de pas grand-chose, en fait.
Et 50% de pas grand-chose. Voilà. Donc, le problème n'est pas résolu du tout en mettant le bulletin blanc, en le comptabilisant d'une façon ou d'une autre, même si, effectivement, dans un deuxième tour, en termes de maintien, puisqu'il faut 10% de suffrage exprimé pour pouvoir se maintenir au deuxième tour, ça pourrait légèrement modifier la donne et peut-être empêcher des quadrangulaires, et ça ferait que des triangulaires. Enfin, ça changerait pas grand-chose.
Mais peut-être que aussi c'est aux citoyens de se prendre en charge.
Exactement, parce que
qu'est-ce que vous en pensez à Haus, hein, les citoyens, peut-être qu'ils pourraient se dire si je suis pas d'accord avec les parce autres, allons-y.
Je me présente. C'est le camp du citoyen. C'est le camp du citoyen Sorel, là, aujourd'hui, qui se présente. Il est tout seul comme un grand couillon, et puis au bout du compte, il va pas y arriver.
C'est pas se dire je me présente. C'est tout simplement le vote blanc aujourd'hui, ma foi, il apparaît, c'est ce que vous avez dit les uns et les autres, effectivement, comme pour être une petite roue de secours à la démocratie. Mais en réalité, la véritable secours à la démocratie, c'est ni plus ni moins que l'éveil des consciences politiques. Parce que c'est à partir... Et là, c'est pas...
Tu vas pas la jouer à la prise de conscience du prolétariat, quand même. Ben,
c'est la prise de conscience, effectivement, de la politique, de savoir qu'effectivement, n'importe qui peut peser, effectivement, dans la vie. Les syndicats ne se sont pas créés comme ça. Les
partis politiques non plus.
Les partis politiques non plus, mais tous les mouvements, les réseaux sociaux le prouvent effectivement que les gens sont impliqués, mais justement, il faut qu'il faut construire quelque chose. On ne se réfugie pas dans un vote blanc comme on ne se réfugie pas dans un vote nul. À partir de ce moment-là, c'est au citoyen de savoir s'il veut faire vivre la démocratie ou pas.
Et la réponse aujourd'hui, c'est ou pas.
Non, et effectivement, aujourd'hui, là, ce qu'on peut, en filigrane, condamner, c'est peut-être effectivement les modes de scrutin, parce que le scrutin à deux tours, peut-être que la proportionnelle, effectivement, aiderait à ce qu'il y ait une représentation de toutes les sensibilités. Alors qu'effectivement, le mode à deux tours, etc., bon...
Là, c'est le grand bordel, comme sous la 4ème République.
Le grand bordel, non ?
Docteur Jekyll, par exemple, les européennes.
C'était le grand bordel parce que 24 gouvernements en 12 ans. Donc une instabilité au niveau de la majorité.
Le grand bordel, c'est que les gens, effectivement, ne participent plus à la vie.
La 4ème République, c'était génial. C'était les Trente Glorieuses, c'était le baby boom, c'était tout allait bien. Il n'y avait pas de chômage. Donc, à la limite, on s'aperçoit avec la 4ème République, c'est que moins on est gouverné, mieux on se porte.
Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Mabus, s'il vous plaît, réagissez quand même.
C'est une belle litote. Je me demande ce que les citoyens qui ne s'intéressent pas forcément à la science politique au sens mathématique du terme peuvent comprendre. Par exemple, dans une élection municipale où pour pouvoir être au second tour, il faut faire plus de 10% des exprimés. Ou dans une élection législative, il faut faire plus de 12,5% des inscrits.
Des inscrits, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Pour pouvoir se présenter dans une élection présidentielle où seuls les deux premiers du premier tour peuvent se maintenir au second. La légitimité étant qu'il faut absolument qu'un président fasse plus de 50% des voix. Mais des voix exprimées, encore une fois. Donc moi, je pense que là, tout à l'heure, mon confrère exprimait la 4ème République. Mais dans la 4ème République, on a eu 10 modes d'élection différents. C'est vrai qu'il y avait un système proportionnel, mais par exemple, on a même eu un système proportionnel absolument fantastique où les regroupements se faisaient après le résultat des élections. C'est-à-dire qu'en fait, il suffisait qu'il y ait coalition pour obtenir une majorité. Regardez le problème de l'Italie, où il y a 24 ou 25 partis différents. Je ne vous parle pas d'Israël, où sur 120 députés à la Knesset,
et à chaque fois, ce sont des alliances.
27 groupements, ce sont des alliances, etc. Donc, a priori, sauf ultra cohésion nationale, comme en Israël par exemple, eh bien, les partis ont du mal effectivement à trouver une cohérence. Je sais bien que dans l'Allemagne, où il n'y a pas de majorité absolue actuellement au Bundestag, il va y avoir une alliance gauche-droite.
L'Allemagne, c'est aussi les Länder, c'est un tour un peu différent.
Voilà, et puis c'est un mode d'élection un petit peu différent, effectivement, avec une représentation nationale et locale en même temps.
Très forte.
Mais je reste persuadé, pour revenir sur le vote blanc, que le vote blanc, tel qu'on l'envisage dans la loi, c'est sauver la démocratie.
Alors attention, parce que vous savez, cette petite émission, ça va très vite. Donc on arrive déjà au monde conclusion. Il nous reste une petite minute à discuter. Donc qu'est-ce que vous voudriez dire sur ce vote blanc pour conclure ? Alors, qui c'est qui se lance ? N'importe lequel, maintenant les docteurs, ils font comme ils veulent.
Je vais reprendre un peu une idée qui a été donnée à propos de la Belgique. Belgique, vote obligatoire, inscription obligatoire, vote obligatoire. Là, je suis 200% d'accord, en ce sens que ça a permis à la Belgique, il y a un peu plus d'un an et demi, de ne pas avoir de gouvernement pendant 15 mois.
Voilà. Ouais, le vote obligatoire. Et au fait, il y a des sanctions quand on ne vote pas, c'est ça hein,
ah oui, oui. Relativement dérisoire. Je crois que c'est 30 euros l'amende en Belgique si on ne vote pas. Donc c'est pas zéro, mais enfin. C'est assez dérisoire.
Ah, un petit mot de conclusion. Alors ce vote blanc, ça sert à quelque chose ? Ça sert à rien ?
Non, pour moi, ça ne sert à rien.
Bon. Ça sert à rien, voilà. Donc, et enfin, m'abuse.
Moi, je reprendrai simplement de manière plus générale le mot de Churchill qui disait que la démocratie était le pire des systèmes à l'exception de tous les autres.
Eh bien, moi, je vais simplement conclure comme d'habitude. À samedi prochain pour d'autres dernières nouvelles de demain.
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite. Mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Point neuf, docteur.
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Point neuf, docteur.
Alors, quoi de neuf, docteur ?